Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM. RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de sport. On va parler de sport pendant 1h30 avec notre invité Christophe Barthelot. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous.
Donc président du Motoball de Carpentras. La saison va repartir dans quelques jours.
Très prochainement, oui.
Voilà, donc on aura l'occasion justement d'y revenir là-dessus. Et je suis avec mon colistier, Jean-Yves. Ça va, Jean-Yves ?
Coéquipier, s'il te plaît, coéquipier. Ouais. Bonsoir Lionel, bonsoir Christophe. Salut Théo, le technicien.
Non, mais c'est la première fois que tu es
pas... Théo, il veut pas te parler à toi, t'as vu ?
Non, mais non. Après. Mais pour une fois que tu n'es pas remplaçant, je suis content que tu sois là. Quoi. C'est parti de la veille de match.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Bon,
bonsoir.
Valérie n'est pas là, elle est au soleil. Bonsoir. J'ai reçu une photo de là où elle est, franchement, c'est magnifique. Donc, je sais qu'elle nous écoute, donc on vous fait de gros bisous à tous les deux, Alain et Valérie. Et on va pouvoir dire plein de conneries.
Fayot, ouais, d'habitude, voilà. D'habitude, on ne sait pas le faire, tu as raison.
Ouais, c'est pour ça. Mais sinon, Théo, ça va Théo ?
Bonsoir Jean-Yves et bonsoir Lionel.
T'as vu, il a vu qui était le boss.
Ouais. Bon.
Jean-Yves, il m'a dit bonjour en premier, c'est pour ça.
Non, mais c'est parce que tu le ramènes ce soir. Non, mais, ouais, non,
mais je précise, il y a quand même Florian qui vous écoute. Hein.
Mais alors ça t'inquiète, toi ?
Du tout.
Donc, on va parler motoball dans quelques instants. Alors, comme Valérie n'est pas là, j'ai quand même donné quelques résultats parce que j'ai travaillé. Moi. Mais bon, c'est pas évident d'être à la hauteur de Valérie, donc je vais faire mon possible.
Quel alors, faillot, les patrons ne sont pas là, le type il faillote et qu'il n'en peut plus aller, Zou, ouais. À moi.
Ben tiens, tu connais la famille Caudron ?
Un petit peu, Mathieu.
Ouais, ben il y avait Bruce pendant un certain nombre d'années, il a raccroché les gants, et il y a Mathieu maintenant.
Et Mathieu a gagné ce week-end à Nîmes.
Ouais, au point.
Alors ?
Au BFS Event contre Arthur Klopp dans les catégories moins de 72 kg 600. Très très belle victoire parce que justement il était quand même sur une mauvaise passe il n'y a pas longtemps parce qu'en plus il était blessé et donc là il est reparti il était et donc cette victoire était très très attendue
très au prometteur niveau du, ce
ouais franchement il est en classe A et je pense qu'il pourrait passer pro incessamment sous peu et pour le Gymbox Loisirs de Mazan il y a également un événement important c'est le week-end prochain avec les finales du championnat de France en cadet K1 en plein contact avec Joyce Debar qui va justement concourir pour le Gymbox Loisirs. Donc on lui souhaite bonne chance, mais par contre c'était un très très beau combat à Nîmes, c'était samedi soir. Ensuite, il y avait le hand, Ventoux.
Ouais, les filles de Mazan qui sont allées arracher un superbe résultat du côté de Ajaccio.
Match nul 24-24.
Ouais.
Mais franchement, très très beau résultat parce que je crois qu'Ajaccio est premier.
Juste un truc, Ajaccio survole le championnat de National 2 depuis le début de la saison. Ils ont été défaits une fois, c'était à Mazan, Ajaccio. Elles avaient pris la foudre là au COSEC à Mazan. Et les filles de Mazan ont réédité le truc en allant faire le nul là-bas du côté d'Ajaccio. Pas simple, pas facile, elles l'ont fait.
Et elles sont à 8 matchs sans défaite ?
Elles sont à 8 matchs sans défaite et surtout, elles sont 5e du championnat ce soir.
À 6 journées de la fin.
Ouais, belle surprise pour une équipe qui visait juste le maintien. Ben voilà, c'est d'ores et déjà acquis et maintenant, c'est que du bonus. Alors, N'hésite pas à intervenir si tu veux, Christophe. Si,
non, mais oui, c'est...
Tu te sens quelques envies, surtout n'hésite pas.
D'accord. Non, mais ça, je trouve que ça récompense aussi une belle politique de formation, un beau club. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma fille qui a joué un petit moment là-bas et j'ai pu apprécier tout ce qui fait ce club quoi du hand de Mazan. Ouais.
Ça valide aussi l'association là, qu'ils ont avec ça s'appelle pas l'association, je sais pas comment ils appellent ça, bref, peu importe, avec Sorg. Puisqu'il y a quatre
la convention,
il y a quatre nanas de Sorg là qui ont intégré le groupe cette année. La petite Olibert qui joue en moins de 17 d'habitude notamment, et là qui enfile les buts comme c'est pas permis. Je crois qu'elle en marque 4 ou 5 encore ce week-end. Elle doit être à 4,5 de moyenne depuis qu'elle a enquillé il y a 5 matchs.
Non mais franchement, ouais. Non mais il y a une super
équipe. Bédarides,
et je pense que c'est pour ça.
Ouais, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Bien sûr.
Bon, par contre, il y aura un match important le week-end prochain. hein, contre l'Étoile Beauvallon. Donc ça, c'est, là aussi, ça va être un très très gros match. Et on vous attend très nombreux au COSEC, hein, parce que c'est à domicile que les filles reçoivent l'Étoile Beauvallon. Donc ça sera un match à suivre. Alors il y avait la Pré-Nationale aussi qui jouait. Alors par contre, voilà, c'était deux victoires consécutives. Là, ça y est, elle s'incline. 27-37, donc 10 points d'écart. C'est un petit peu dommage, hein, parce qu'elles étaient bien parties elles aussi. Bon, malheureusement, on ne peut pas gagner à chaque fois. Après, il y avait les moins de 18. Tu avais Mazan qui rencontrait l'UPA BHB. Pardon. Donc là, pareil, elles se sont inclinées, mais de un seul point, 20-21.
Ouais, mais le boulot est fait quand même, parce qu'elle, encore une fois, ce que disait Christophe, c'est que là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de boulot de formation. Mmh. On ne pense pas dans ces catégories-là, on ne pense pas nécessairement à gagner l'ensemble des matchs, mais on passe à former des nanas et à pérenniser le club. Et moi, je trouve que la politique de Pascal Vassé, notamment, puisque c'est lui un peu la cheville ouvrière du
truc.
C'est
lui que je pense aussi. Ouais.
Pascal, il fait un boulot monstrueux depuis des années. Mmh. Et les structures qu'ils ont mis en place dans ce club, eh ben là, aujourd'hui, ça porte ses fruits. Il y a la plupart des nanas qui évoluent dans l'équipe sont soit des joueuses du club, et du cru, soit des nanas qui ont intégré le groupe avec la convention. Moi, je suis super admiratif de
boulot qui est fait dans ce club. Ouais. C'est pour ça. Après, tu avais en championnat de territoire l'entente Carpentras-Mazan qui s'est imposée là aussi, hein, très serré, mais ils se sont quand même imposés 30-29, hein, donc d'un petit point. Après, on avait les moins de 17 en élite PACA. Là par contre elles ont perdu contre Concernade là aussi d'un petit point. C'était vraiment très très serré ce week-end, hein, 32-33. Donc malheureusement les moins de 17 ça reste un petit peu compliqué. Alors pour les moins de 15 ne jouaient pas, les moins de 13 s'imposent à Sorgues, là un peu plus, hein, 23 donc 32 pour Mazan et 23 pour Sorgues. Et ensuite on avait les moins de 11 qui s'impose 5-2 face à Plan d'Orgon et après s'incline face à Château-Renard 4-3. Et puis ensuite, il y avait les moins de 9 qui se sont déplacés à Valréas. Et c'était des sortes de plateaux, donc ils ont disputé plusieurs petites rencontres. Donc je rappelle, hein, week-end prochain, 6 avril, 20h15, Mazan contre l'Étoile Beauvallon au
COSEC. Qui est juste derrière au classement.
L'entrée est gratuite, donc il faut en profiter pour aller soutenir. Et puis en levée des rideaux.
Quatrième l'Étoile Beauvallon et Mazan cinquième. Ça va faire un beau match. Ouais.
Et en levée des rideaux, c'est les moins de 15 qui jouent.
Entraîné par Cynthia Faureau, me semble-t-il. Tu connais Cynthia Faureau ?
Non, mais voilà. Tu connais mieux que moi, je crois.
Ouais, c'est une des pièces maîtresses de l'équipe 1.
On passe à l'ABC Carpentras.
Je t'en prie. Ça, par contre, zéro compétence.
Zéro compétence, mais par contre, les cadettes, elles ont faire une super prestation mercredi dernier. Elles sont en finale de la Coupe de Vaucluse. Elles ont gagné donc 61-54. Et donc, la finale, je n'ai pas encore la date ni contre qui elles vont jouer. Mais par contre, c'était vraiment un très, très beau match. C'était à domicile contre l'ACI. Et voilà, elles ont quand même gagné largement 61-54. Donc, les cadettes, bravo. Ensuite, on avait, concernant les autres résultats, les moins de 18 qui étaient en demi-finale de la Coupe Vaucluse, qui ont gagné contre l'Île-sur-Sorgue 61-54. On avait les U11 filles qui se déplaçaient à Avignon. Elles ont perdu 17-14. Les U11 garçons, quant à eux, recevaient Cavaillon. Et là aussi, ils ont perdu 7-30. Donc, voilà. Ben ouais, ils attendaient que tu venais soutenir, Jean-Yves. Ensuite, on a les 13 filles qui ont perdu également à l'Île-sur-Sorgue, à domicile contre l'Île-sur-Sorgue, 34-31. Les U13 garçons ont perdu également contre Château-Renard, 40-37, à domicile. Les U18 filles se déplaçaient à Sorgue. Et là, par contre, elles ont gagné. 80-50.
Je sais.
80-50.
Je sais.
T'as vu un peu 80-50 en fait.
Je sais.
Toi qui soutiens Sorgue.
Absolument.
Ça va ?
Je sais, ouais, non, je sais.
80-50 en fait. Non, non, mais bon, ça,
il est lourd ce type. Juste un petit mot pour nos auditeurs. Lionel est en pleine forme ce week-end parce que son équipe a enfin gagné un match de Coupe d'Europe de rugby à 15. Il supporte Clermont et ils n'ont pas l'habitude de trop gagner. Donc voilà.
Christophe, il connaît l'ASM en fait. C'est,
allez.
Ils sont très très bons. Ils sont deuxièmes au championnat de France.
Allez. Top 14.
Oui, oui. Ouais, en top 14 justement, en première division.
Si on pouvait accélérer un petit peu.
Oui, d'accord. Les U18 garçons donc recevaient Cavaillon, ils ont gagné 67-33. Et les U17 garçons en régional, alors là par contre, ils ont gagné, mais alors ils ont explosé. 123-38 contre Digne. Ça, c'est Digne de bien les...
Et ça, quand tu prends des boîtes comme ça, le retour dans le minibus, c'est horrible. Là, il te reste 2h30 de minibus, écoute-moi.
Je pense que ça va être... c'est calme.
Ah ben, non, c'est calme, ouais, c'est calme. S'ils n'en ont pas perdu une paire sur l'autoroute...
Ah ouais, mais bon, franchement, allez. C'était... Rugby à 13 ?
Rugby à 13.
Putain, super match. Oh, oui, bon, on aura...
on aura Jérôme
tout à l'heure, après la pause musicale. Mais franchement, donc, c'était les quarts de finale de la Coupe de France. Ils recevaient pas n'importe quelle équipe.
Tu sais comment elle s'appelle, la Coupe de France de rugby à 13 ?
Je le savais, je ne me rappelle plus.
Elle s'appelle la Coupe Lord Derby.
Oui, c'est ça.
Mmh. Ah.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, mais elle s'appelle comme ça.
Dommage. Bon, donc Carpentras recevait les Dragons catalans et ils ont perdu, mais par contre, ils n'ont pas du tout démérité. Ils sont partis assez vite, ils ont bien joué, mais malheureusement, ouais. Bon, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour Carpentras qui ne se sont pas... soldé par des essais. Par contre, les Catalans, quand ils avaient la balle, ben, ça allait.
Ouais, alors, il y a un petit fait de jeu, mais on y reviendra avec Jérôme. Le petit Bravo prend un carton jaune à la 73e. Mmh. Il y a 15 points d'écart au moment du carton jaune. Et le carton jaune du petit Bravo fait dégoupiller toute l'équipe. Et là, un essai encaissé à la 73e, à la 75e.
Ouais, ça s'est joué à la fin, ouais.
Ça se joue complètement à la fin. Voilà, sur des erreurs de jeunesse. Et puis les Catalans, c'est une des grosses équipes, si ce n'est la grosse équipe du championnat. Donc, ce n'est pas complètement normal.
Mais ils avaient leur chance et puis ils ont bien joué.
Bon, en tout cas, ceux qu'ils avaient à jouer, ils l'ont joué à fond. On en parlera sûrement tout à l'heure avec Jérôme. Mais voilà, le job a été fait et plutôt bien fait. Bravo en tout cas pour le parcours en coupe.
Voilà, donc le score, hein, 14-50. Mais bon, voilà, ce n'est pas le reflet du match.
Non, ce n'est pas le reflet du match. Par contre, les quatre équipes qui restent là dans la coupe, Lézignan, Limoux, Carcassonne et les Catalans, ça promet des demi et une finale de fou.
Ouais, à suivre.
Ouais.
Pour information, il y avait également en championnat de ligue les U15, donc les minimes, qui ont gagné contre Entraigue. Là, par contre, ouais, Entraigue a pris une tôle, 50-0. Très très beau match des minimes en tout cas.
Ouais.
Et la prochaine rencontre, elle est programmée donc samedi 6 avril, donc dans 5 jours, à la Roseraie face à Marseille, avant la dernière rencontre de championnat de ligue qui aura lieu à Salon de Provence.
Il y avait aussi une rencontre en retard dans le championnat d'élite 2 de rugby à 13. Villefranche d'Aveyron a battu Toulon sur le score de 46-39. Au classement, on retrouve toujours Carpentras 4e là pour le coup avec 27 points. Et nos amis Entraigois 6e. Donc Carpentras avec 37 points et Entraigues. Qu'est-ce que j'ai dit ? Carpentras 4e avec 37. Et Entraigues 6e avec 27 points.
Et les premiers, c'est ?
Les premiers, c'est toujours Bao avec Ville-Gaillenc et Pia.
Non, mais bon. En tout cas, ils ont fait une belle saison.
Juste en parlant de rugby à 13, un petit mot sur les juniors du SOA qui sont allés battre en quart de finale de la Coupe Luc Nittard. La Coupe Luc Nittard, c'est la Coupe de France des juniors. Et le SOA est allé battre Palo à Palo sur le score de 26-22. Ils sont qualifiés pour les demi aussi, les petits bisonos. Entraîné par Flo Bissière.
Bien.
Ouais, excellent.
Alors juste, il y avait du rugby à 15 ce week-end.
Ouais, il y avait de la
Coupe d'Europe.
Ouais, mais toi, tu joues pas dans la grande Coupe d'Europe. Toi, tu joues petite Coupe d'Europe.
Ils ont fait quoi, la SM ?
52 points contre personne. En basket, le SBC de Sorgue a été battu dans sa salle face à Angers sur le score... de 76-62. Et dans cette poule du milieu, les Sorgues sont toujours troisième. Ça laisse, ça laisse toutes les chances aux Sorgues de bien figurer dans cette poule du milieu. Il y a un déplacement ce week-end, je crois, du côté de Toulouse.
Et alors, le match ?
Alors, Toulouse, entraîné par, l'ancien entraîneur de Sorgues, Stéphane Dao. Connaissant Stéphane, il va avoir à cœur de ne pas passer pour une clown devant ses anciens joueurs et ses anciens dirigeants. Ça risque de faire un truc un peu piquant, mais pourquoi pas. Cette poule du milieu, tu sais, c'est les équipes qui ont figuré dans le milieu du tableau.
D'où le poule du milieu, en fait.
Ouais, de la conférence Est et de la conférence Ouest. Et les équipes se valent toutes à peu près et
c'est des beaux matchs.
Ouais, c'est des matchs engagés. La semaine dernière, les Sorgues l'avaient emporté. C'était un match à quasiment 200 points, à 93 à 91.
Ah oui.
Ouais, sur le quasiment au buzzer. Donc, tous les matchs de cette poule-là sont sympas à voir. J'invite les gens à se tenir au courant et à aller encourager Sorgues à la salle de la Plaine.
Parfait. Bon. Allez, on fait une petite pause et puis après, on parlera avec Jérôme Alonso, le co-entraîneur du RCC 13, du match d'hier contre les Dragons. À tout de suite. So you thought that I wouldn't be alright, but I'm good. Shot of tequila, a taste of fire. Can I, it feels good, I'm riding on a high. No longer need it, take what you like. Call it amnesia, you're gone from my mind.
Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio avec tous mes amis. Hein, Jean-Yves, tu es mon ami ?
Non. Jamais de la vie.
Bon, bah en tout cas, au téléphone, on a quelqu'un qui est mon ami, c'est Jérôme Alonso.
Il n'est pas ton ami non plus. Ouais.
Ça va, Jérôme ?
Ça va, merci.
Salut, Jérôme.
Salut.
Bon, hier un beau match, quart de finale donc, de la Coupe de France contre les Dragons.
Ouais.
Un match, bon, mais le score, disons, n'est pas forcément le reflet du match. T'en penses quoi, toi ?
Oui, tout à fait, c'est ce qu'on retient, puisque on a craqué un peu dans les 10 dernières minutes suite à une exclusion temporaire d'Hugo Bravo, où on prend 18 points en 7 minutes, sinon on était arrivé à la 73e minute avec un score à 32-14. C'était un score plus qu'honorable contre l'équipe qui, n'oublions pas, est leader du championnat élite.
Avec Jérôme, cette équipe des Catalans, là, quand on regarde les noms qu'il y a, il y a Pérez qui a joué Les Dragons, Ben Pomeroy, enfin, il y a une paire de mecs qui ont déjà brillé. Vous avez fait plus que bien tenir finalement, parce que il y a beaucoup d'équipes qui ont explosé bien avant contre ces Catalans là.
Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, on a fait une super entame puisque c'est nous qu'on ouvre la marque au bout de 5 minutes. Après, on a tenu un bon petit quart d'heure où on est bien arrivé à défendre et justement, ils s'attendaient peut-être pas à une position comme ça. Ils ont fait beaucoup de fautes dans ce début de match vu notre discipline en défense et notre envie de bien faire. Après, c'est sûr qu'une fois qu'ils ont enclenché la machine, ça a été un peu plus dur pour nous physiquement. Mais bon, on est arrivé à la mi-temps avec 4 essais à 2 en leur faveur, donc c'était quand même déjà une très bonne première mi-temps de notre part. Surtout qu'on a eu beaucoup de temps fort où on n'est pas arrivé à concrétiser parce que défensivement ils sont au point. Mais franchement, on était très fiers des joueurs et du comportement qu'ils ont eu, parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'équipes d'élite 1 qui ont pris plus que nous contre eux.
Et sinon, le fait justement de cet énorme écart, c'est par rapport au carton jaune d'Hugo Bravo. Ça a fait déconcentrer l'équipe. Comment tu peux expliquer justement en fait, autant d'essais en si peu de temps?
Ben, déconcentrer, non, mais c'est-à-dire que c'est la fin du match, donc on est à la 73e minute.
Ouais.
Ça faisait un petit moment qu'on défendait, qu'on était dans le rouge, mais avec l'envie qu'on avait, on arrivait à s'en sortir. Après, quand tu es dans le rouge et qu'en plus tu te retrouves avec un joueur de moins contre des joueurs de ce niveau-là, ça pardonne pas et voilà, c'est après on sait qu'à 13 ça va très vite quand ça s'enchaîne. Là, on prend donc un essai suite au carton jaune, on engage, on reprend un essai de suite sur l'engagement et bon, après, les joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent, mais physiquement, on était très, très, très d'athènes physiquement.
En plus, Jérôme, on le sait, cette équipe de Saint-Estève, moi j'ai vu jouer une paire de fois cette année là, mais ils font souvent la différence aux alentours de la 60e, 65e, parce que ils ont plus de rythme, ils ont un banc extraordinaire aussi, et c'était peut-être même que sans la sortie de Hugo, vous auriez pris quand même sur les dernières minutes.
Bah écoute, franchement, j'en suis pas sûr, et j'ai parlé longuement avec Benoît Albert à la fin du match qui me disait qu'il avait été agréablement surpris et qui pour lui, sans ce carton jaune non plus, il pense que le score n'aurait pas été aussi large, parce que je te dis, on est en possession du ballon à 2-3 mètres de leur ligne. C'est nous qu'on a le ballon, et bon, Hugo pète un plomb et il prend un jaune et pénalité, alors que sur le coup on peut marquer. Donc si on marque, on revient quand même à 32-20. Temps de transformer et tout, tu vois, il reste plus que 4 minutes peut-être. Donc je pense qu'on n'aurait pas pris ces 3 derniers essais. Après, par contre, voilà, on t'en prend un, t'es un de moins, t'es fatigué, et après, ben voilà, ça s'enchaîne vite. Mais honnêtement, je pense que si on était resté à 13 contre 13 sur cette fin de match, je pense pas qu'on aurait pris ces 3 essais.
Après, sur le coup, on en avait déjà parlé ensemble, mais le parcours en Coupe de France, c'est plutôt un beau parcours. Tu t'attendais à presque déjà à sortir contre Lyon, vous passez une période de tours, ça permet aussi de maintenir les mecs sous pression, c'est plutôt une bonne chose quand même pour vous, même si ton groupe te permettait pas, ton effectif te permettait pas de prétendre à beaucoup plus que ça, et à un moment il aurait fallu faire un choix.
Ouais, bien sûr, tout à fait, non, c'est sûr que c'est très bien, et de sortir de cette façon, c'est bien aussi, parce que faut pas oublier que hier on joue sans Jordan Richard, on joue sans Charlie Terragno, on joue sans Jimmy Havé, qui vont rentrer dimanche. Bon, on joue sans Maxime Grosseur, mais ça c'est depuis un petit moment. Donc je pense que déjà avec ces 3 joueurs, on aurait pu proposer un peu plus de jeu que ce qu'on a fait, puisque là malheureusement on est obligé de composer de nouveau. Jimmy Havé qui se teste à l'échauffement, qui marche pas, donc on est obligé un peu de changer l'équipe. Et on s'aperçoit que malgré ça, tous les dimanches, il y a des joueurs qui rentrent, des joueurs qui sortent, et que l'équipe a le même rendement, parce que moi, comme je leur ai dit à la mi-temps, franchement, avec la première mi-temps qu'ils m'ont faite, moi je leur ai dit, les gars, voilà, il faut plus parler de Villegayen, de Bao, compagnie, on est vraiment dans le vrai, on peut rivaliser avec n'importe qui vu les 40 premières minutes qu'on a fait contre cette équipe.
Après, Jérôme, on en a parlé la semaine dernière, mais est-ce que le fait de ne pas scorer quand vous devez scorer, justement, c'est pas ce qui fait la différence? Ça et une paire de petites conneries là, devant la ligne, Est-ce que c'est pas ce qui fait la différence entre, on va dire, les deux équipes de très haut de tableau et puis le reste derrière, vous, Villegayen, par exemple, quand on vous voit, c'est pas aussi efficace que ça devrait l'être, alors que vous vous procurez un tas d'occasions. Il y a de temps en temps des petites fautes, vous prenez des pénalités que vous ne devriez pas prendre. Est-ce que c'est pas ça qui vous sépare de la première et deuxième place, par exemple? Parce que sur le mental, on le sait, il n'y a pas photo, vous y êtes. Sur l'organisation aussi, mais il peut y avoir à ce moment-là des petits trucs qui font la différence.
Mais écoute, je serais prêt à te dire que oui, en effet, c'est notre petit point faible. Maintenant, que ce soit ça qui nous sépare des deux équipes de tête,
avec les 300 000 euros, bien sûr. Avec les 300 000 euros.
Avec des 6, on fait beaucoup de choses, mais si tu nous rends les 6 points qu'on a gagnés sur le terrain et qu'on nous a enlevés sur le tapis vert, c'est nous qu'on est profité.
Eh oui, aussi, ouais, pas faux.
Et on est devant Bao et devant Villegayen. Donc je me sers de ça aussi pour motiver les joueurs, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de me... Enfin bon, après, pas vous, mais les joueurs, ils me disent toujours pareil, tu vois, ce truc de se dénigrer par rapport aux autres. Ouais, mais Villegayen, ils sont, oui, mais Bao, ils sont. Non, les gars, Villegayen et Bao, si on nous rend nos 6 points, on est devant eux.
Il y a ça, Jérôme, mais il n'y a pas aussi un problème d'effectif, parce que tu vois, tu es en effectif tendu par rapport aux autres équipes. Donc, c'est-à-dire que tes joueurs, ils jouent pratiquement tous les week-ends, ils n'ont pas possibilité d'avoir un jour de repos. Donc, est-ce que justement, le fait d'être en flux tendu comme ça n'est pas un énorme handicap?
Si, bien sûr que c'est un handicap, bien sûr. On a vu Villegayen la semaine dernière contre Villeneuve-Minervois, avait mis 9 joueurs au repos pour pouvoir préparer ce quart de finale. Nous, si on met 9 joueurs au repos, il faut que je rappelle Jean-Yves pour qu'il vienne jouer.
Écoute-moi, tu sais quoi, tu oublies mon numéro, d'accord?
Parce qu'on n'est pas assez. Non, c'est sûr que c'est un problème. Bon, après voilà, on sait depuis le début de la saison qu'on a un effectif limité, justement. Déjà dès le départ, on avait un effectif limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cru au projet qu'on voulait mettre en place avec elle et qu'on refusait de venir nous rejoindre. Et après, avec les blessures et les suspendus, donc c'est sûr qu'on s'est retrouvé un peu le juste, et on l'est encore, hein, puisque voilà, dimanche j'avais que 18 joueurs valides avant le coup d'envoi, 17 après l'échauffement. Donc voilà, on a la chance tous les dimanches d'en perdre 2 et d'en rentrer 2. Donc pour le moment ça va bien, mais il faut pas que
on ait plus
de blessés que ça, sinon ça va être une fin de saison compliquée. Mais avec le tempérament de ces bonhommes, franchement, moi il me régale, parce que voilà ce que je disais. D'un dimanche à l'autre, tu changes la moitié de l'équipe, et bon, chaque fois, tu changes pas les petits postes, hein, tu changes le 9, le 7, le 6, le 1, et ça fonctionne toujours, donc c'est qu'il y a quelque chose quand même.
Jérôme, là maintenant, on ne parle plus de coupe, vous êtes sorti des deux.
Ouais.
Vous êtes 3e ou 4e selon le classement, on va dire, allez, 3e, 37 points.
3e, ouais.
Ouais. On est concentré, on est focalisé sur la fin de championnat et les phases finales à la maison, c'est ça?
Ben écoute, ouais, si on finit dans les 4 premiers, enfin, si on finit 3 ou 4e, on fera le quart de finale à domicile. Ouais,
ça va le faire, parce que l'Escure est à 33.
Ouais, nous, il faut qu'on gagne dimanche. Ouais. Si on gagne dimanche, on aura fait un grand pas vers la 3e place, mais il faut gagner dimanche à Villefranche. Après, comme j'ai dit aux joueurs, maintenant, voilà, il nous reste 5 finales avant les phases finales. Donc si on se met dans la tête de jouer les matchs à 200% sans penser à rien et sans arrière-pensée, sans dire oui mais c'est Villegayen, oui mais c'est Bao. Moi, en début de saison, je t'aurais dit non, mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'on peut battre ces équipes. Et plus les matchs avancent, et plus je m'en persuade. Donc j'espère que les joueurs vont être comme moi. Ce sera très difficile parce que c'est de très bonnes équipes, mais je pense qu'on a les atouts pour rivaliser et pour les battre.
Jérôme, à l'occasion, je te ferai écouter l'interview qu'on avait fait en début de saison, où on parlait de ne pas descendre et on parlait de sauver la saison. Hein. Bon, mais écoute, Jérôme, merci pour ta dispo et ben, on va te laisser. On te suivra, on te rappellera lundi.
Et puis, il y a un match important ce week-end, justement.
Bien sûr, il y a un match important ce week-end. Il y a un match important tous les week-ends jusqu'au mois de juin.
Après, le week-end après, on sera de repos. Donc, ça va être un des seuls week-ends qu'on a de repos où on va vraiment profiter pour recharger les accus.
Et après, en route vers la finale et le titre, c'est ça?
Eh bien, écoute, hein, j'espère bien. Une finale, déjà, ce serait très bien. Et après, tu sais qu'une finale, comme je dis, ça se joue pas, ça se gagne.
Et bien sûr.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme.
Allez, salut, Gérôme, à bientôt.
Merde pour le week-end prochain.
Tout le monde.
Et on se tient au courant.
Allez, au revoir.
Voilà, donc, écoute, finalement, c'était pas si mal que ça avec le bilan en général, hein. Surtout avec l'équipe, hein. C'est ça qui est compliqué. C'est le...
ouais, c'est son principal problème. Enfin, je dis « son », mais ils sont deux, il y a Gaël aussi, ouais. Gaël Talek. Leur principal problème, c'est ça, c'est la différence, c'est la profondeur de banc. C'est pareil pour Christophe, j'imagine, face à des équipes beaucoup plus huppées, mais à un moment, c'est ton banc qui fait la différence. Il a de la chance, Jérôme et Gaël, ils ont de la chance d'être des spécialistes de la motivation. Et donc, n'importe quel mec qu'ils prennent, ils arrivent encore à les inclure dans le groupe, mais ça va être compliqué pour finir la saison comme ça.
Ouais, c'est clair.
S'ils ne rentrent pas leurs blessés.
Bon, on va sur tout ça. Allez, on fait une pause.
Parlons sport sur RTVFM.
Donc, nous sommes de retour dans le studio. Nous sommes bien sûr en direct sur le 102.2, n'est-ce pas, Jean-Yves ?
Ah, bah oui, mercredi matin, 6h30.
J'ai même pas posé la question. T'as vu, t'es là, je suis au top.
Hein.
Je te sens stressé.
Non, je suis nickel. Mais comme je connais d'avance ce que tu as demandé, quand est-ce qu'on peut nous réécouter ?
Mais même
mercredi
pas.
Matin, 6h30.
Parce que les auditeurs ont l'habitude maintenant.
Exactement.
Donc ?
Et sur le Facebook, quand tu voudras bien mettre le podcast en ligne.
Tu remarqueras que le podcast, même si j'étais pas là lundi dernier, il a été mis en temps et en heure.
Bien sûr, les photos ont été envoyées à temps.
T'as vu un peu ? Voilà, Théo. Bah, j'aurais pu aller plus vite, mais Théo, il avait fait une bêtise sur le podcast. Je vais pas.
Ouais. On balance pas.
Il balance.
J'y vais. Je suis à fond là. Bon, motoball, Jean-Yves.
Impeccable.
Tu connais ?
Par cœur.
Carpentras. Excellent club d'élite 1. Il y a combien d'équipes en élite 1 ?
8.
8. Mais c'est toujours les mêmes en fait.
Non, ça
pratiquement.
Dépend.
Non.
Il y a toujours un qui descend et l'autre qui monte de la division inférieure.
Et là, en l'occurrence, Carpentras.
En l'occurrence, c'est Robion qui est descendu et Valréas qui est remonté.
Le retour de Valréas en élite 1.
Le retour de Valréas en élite 1, ouais.
Il faut avoir assisté à un match à Valréas en plein été. Quand il y a des matchs un peu tendus, là, j'avais eu un Valréas Camaré il y a une période d'années, là, peut-être un poil plus d'ailleurs, en plein été à Valréas avec le stade plein, c'est un truc de fou.
Ouais, ça j'imagine.
Mais bon. Mm-hmm.
Par contre, Carpentras a un sacré palmarès. Je regardais un petit peu, j'ai fait depuis deux ans là.
Oui, sacré, non.
Non, mais déjà depuis deux ans, regarde,
on commence juste à l'étoffer.
En 2017, vous avez quand même gagné le trophée des champions pour la première fois.
Oui.
C'était de l'histoire du club.
Champion de France aussi.
Champion de France, donc pour la quatrième fois. Donc, ouais, il y a eu 1947.
Oui, d'accord.
Non, parce qu'il y a eu
1962. Ouais. T'as vu un peu, j'ai mis. Non, mais franchement, bien. Et par contre, l'an dernier, donc 2018, Coupe de France.
Oui, pour les deux de nos trois équipes. Ouais. L'équipe junior, U18, et
junior
l'équipe élite 1.
Vous êtes tout gagné en fait.
Oui, sur deux ans.
Oui, sur deux ans. Alors c'est quoi maintenant l'objectif ?
En remettre une couche, faire le doublé cette année.
Après voilà, l'objectif c'est vraiment de continuer à progresser, continuer à développer, à essayer de développer aussi bien notre jeu que notre état d'esprit, continuer à former des jeunes et faire avancer tout ça. Donc ouais, ça passe aussi par, évidemment, quand on a pris goût au titre, c'est après difficile de faire différemment. Donc on essaie de tout mettre en place pour pérenniser et faire que le club de Carpentras, Motoball Carpentras, puisse être une équipe qui soit de façon récurrente dans les trois premiers, voire mieux, et si possible, arriver à prendre des titres de façon très régulière. Ouais.
Justement, on a l'impression que ça se structure un peu à Carpentras depuis quelques années, là, avec des juniors, une présence même en cadet, il me semble. Mm-hmm. On a l'impression que le truc, ça prend vraiment forme et ça devient de plus en plus consistant, et qu'on est un peu à l'abri de, du titre sans lendemain, en tout cas. Mm. On va pas, ben, on en a parlé en off, mais moi, j'ai suivi Monteux pendant quelques temps. J'ai toujours des amitiés, donc je vais pas balancer, mais le titre de Monteux avait été suivi d'une année un peu pourrie, là, pour des raisons sur, en plus, un peu extra sportives.
C'est ça, ouais.
Mais, on a l'impression que vous faites en sorte de vous mettre à l'abri de ce genre de péripéties.
Ben, disons que pour aller un peu dans ton sens et dans le sens de ce qui s'était passé à Monteux, puisqu'on en a parlé, quand on prend un titre et que ce n'est pas une habitude et que ce n'est pas récurrent, il faut faire très attention parce qu'il faut, savoir le gérer. Ça se gère. Ça se gère dans la tête des joueurs, mais ça se gère aussi dans la tête des dirigeants et de tous ceux qui aident. On a trop tendance à se dire qu'on est arrivé alors que... On n'y est pas encore, on en est loin. Et bah pour être honnête, ce qui s'est passé à Monteux, on est passé à Carpentras assez proche de ça.
La saison d'avant.
Ouais. Ouais, la saison d'avant, même cette saison-là qui vient de passer, qui a été particulière.
Troisième, vous êtes terminé ?
Ouais, après sportivement, ça a été une réussite. Hein. C'est vrai que sur le championnat, on a entre guillemets un peu pas baisser les bras, mais on a eu des événements qui sont intervenus au mauvais moment, avec une ou deux blessures, et ça nous a pénalisés. Donc on en a tiré les enseignements et on a rectifié le tir. Mais après, c'est vrai que, comment dire, on est dans notre phase d'apprentissage aussi. Être titré régulièrement, ça s'apprend. Il faut savoir le gérer dans les têtes, aussi bien dans la tête des joueurs que dans la tête de tous ceux qui entourent et de l'ensemble du club. Donc ça, cette année, je dirais qu'on a passé un cap et qu'on a appris à le gérer. Voilà, il y a plein de choses. Ça fait partie de notre apprentissage.
Ouais, c'est quand je te disais que vous aviez l'air de vous structurer. Je parlais aussi de ça, de tout ce qui est mis autour, justement, pour pas attraper la melonite, parce que là, la melonite, ça s'attrape,
oui,
ça s'attrape vite. Mais tu parlais des joueurs et j'en connais une paire. Il me semble que pour avoir vécu presque de l'intérieur ce qui s'est passé à Monteux, il y a eu une espèce de melonite plus de l'entourage, et je parle pas des dirigeants proches qui ont continué à bosser, mais il y avait des mecs un peu néfastes autour du club. Bon, on va pas citer de noms, mais on les connaît manifestement, toi et moi. Mais tous ces mecs là ont chopé un peu le truc et ont voulu s'approprier le bébé alors que ils avaient fait leur temps. Et
ouais, je vois que tu connais bien le sujet. Et oui, en fait, c'est toujours un peu le risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça marche bien, quand on va de l'avant, après, voilà, on a affaire à un sport qui est bénévole. Tout le monde y met du sien. Et après, là, on va dire qu'il y a certaines personnes qui ont plus tendance que d'autres à dire... Ben, tout ça, c'est grâce à moi, tout ça, c'est...
Bon,
donc, moi, je suis là aussi pour amener les choses, en tant que président, à leur place. C'est-à-dire que, ben oui, on y est tous pour quelque chose, mais par contre, on y est tous. Mmh. Et de celui qui amène le moindre petit détail à celui qui a fait le plus important des travaux, tout le monde est important et on y a tous contribué, quoi. Voilà.
Parce que là, on parlait, Jean-Yves parlait justement de Monteux qui avait fait une contre-performance suivante. Mais là, moi, je reviens juste.
Soit bien clair, ouais. Je parle de Monteux parce que c'est un club que je connais de l'intérieur et j'y ai vécu presque de l'intérieur des trucs qui m'ont choqué. J'ai pas honte de le dire. Mais ça arrive dans plein d'autres clubs et dans plein d'autres sports.
Bien sûr.
Le plus compliqué, c'est pas de choper un titre, mais on a vu. Au foot, au rugby, par exemple, des tas de clubs qui avaient été titrés une saison et qui ont complètement explosé la saison d'après, au risque même de se retrouver relégués la saison d'après, avec des problèmes extrasportifs et des problèmes financiers. Donc, quand je parlais avec Christophe de la manière de structurer le truc, c'est aussi d'apprendre, il a dit fort justement, mais d'apprendre à gérer l'après-engouement,
Mais là, je trouve qu'ils l'ont bien, vous l'avez bien, très très bien géré, parce que en reprenant, vous gagnez la Coupe de France 2018, déjà c'est pas mal. Mmh. Et puis quand je regarde un petit peu le classement, vous terminez troisième, mais avec le même nombre de victoires que Troyes qui est deuxième quand même. Mmh. Et en fait, ce qui vous met dedans, c'est le fait que Troyes a deux matchs nuls et vous avez cinq défaites, alors que vous auriez pu être vice-champion de France. Mmh. Bon, sachant que les champions de France, c'est Neuville. Donc finalement. L'après champion de France, finalement, Coupe de France, troisième, presque deuxième, c'est pas mal.
Disons que la fierté, elle est aussi que nous, on se bat vraiment avec nos armes. Et qu'en face de nous, on a quand même des grosses écuries. Il faut simplement rappeler que l'équipe de Neuville et l'équipe de Troyes ont, on va dire, des moyens financiers qui sont bien au-delà de ce que nous avons. Avec, pour l'équipe de Troyes notamment, des rémunérations sur certains joueurs. Ils ont, l'année passée, ils avaient deux joueurs internationaux étranger.
Après, ça veut rien dire. Il y en avait un Robio aussi qui passait plus de temps au bar que...
Non, mais après, ça veut rien dire. Mais il y a quand même... On se bat vraiment avec nos moyens. Je ne dis pas qu'ils sont limités. Je dis qu'ils sont suffisants pour arriver à faire quelque chose, la preuve en est. Mais ce qui fait plaisir, c'est ça. C'est que nous, on se bat avec nos armes, avec des jeunes qu'on a formés en grande partie au club. D'autres qui sont arrivés pour renforcer la structure et on met un point d'orgue à recruter, mais de façon intelligente pour pas déstructurer, désorganiser le groupe. Et on continue à se baser sur nos jeunes qu'on fait avancer, qu'on fait monter, qu'on fait progresser. Nos deux axes majeurs, c'est ça, c'est vraiment une équipe Elite 1 la plus forte et la plus homogène possible. On le verra encore cette année et je vous invite à venir voir.
Mais on viendra.
Ça sera avec grand plaisir. Et puis, le deuxième axe, c'est toujours le développement de la continuité de la formation de jeunes au sein du club.
Ouais, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure pour le hand avec Pascal.
Tout à fait.
Dans tous les cas, ça reste la base. Moi, je suis éducateur d'un club de rugby et tu peux construire toutes les baraques que tu veux et les plus beaux bâtiments que tu veux, mais si tu as oublié de passer par les fondations, ton truc va se casser la gueule très vite. Et on le voit, encore une fois, dans plein de sports. Toutes les équipes qui se construisent de briques et de broc, à un moment, à la première secousse, ça tombe. On parlait de ça aussi avec le rugby à 13 tout à l'heure avec Jérôme, mais les gamins qui fait jouer là hier... C'est des gamins qui sont issus du
centre
club,
de formation.
Bien sûr, du centre de formation ou du club. Mais en tout cas, si t'as pas pris le temps de former, et je sais que ça forme du côté de Carpentras, si t'as pas pris le temps de faire le job en amont, forcément tu peux pas tenir.
Allez, on fait une petite pause et on reparle motoball juste après.
I believe in something.
Parlons Sport sur RTVFM.
Voilà, après cette magnifique musique choisie par Théo. Merci Théo.
T'as vu? Juste un aparté sur la musique. Non, tu étais pas là la semaine dernière, on s'est régalé.
Ouais. Non mais là je suis en dépression là, déprimé là. Mais bon.
Non mais il le fait exprès Théo. Il le fait exprès.
Mais je pense ouais.
Bon, c'est toi bien qui Théo, réserve tes choix musicaux quand c'est important de le faire. Merci.
Bon, on revient au motoball. On parlait justement des autres équipes avec de forts budgets et qu'ils ont fait appel quand même à des joueurs étrangers. Mais bon, à Carpentras, il y a quand même deux ou trois internationaux. Voilà, les joueurs sont quand même de très très haut niveau à Carpentras.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Parce qu'on a toujours en équipe nationale David Ferrière.
Il n'était pas présent l'année dernière en Russie, mais l'année dernière.
L'avant, hein,
ouais, c'est ça.
Ouais. À Camari et Valréas. Ouais.
Il y a Jason aussi.
Jason Nuzo, ouais, qui était l'année dernière en Russie avec Romain Flandais. Ouais.
Et Romain, qui donc ouais. Très très belle équipe, et même au niveau de la relève des juniors, parce que je sais que il y avait un moment Andy qui était. Ouais. En équipe nationale.
Cette année, en junior, j'ai trois juniors qui sont présélectionnés. Donc, c'est juste une présélection, mais voilà. Donc, il y a aussi un beau potentiel dans les juniors. Ouais.
Ouais, mais comment ça se passe justement par rapport à. Parce que bon, on parlait tout à l'heure du rugby à 13. C'est vrai que le rugby à 13 a beaucoup de mal en termes d'effectifs. À ton niveau, au niveau effectif, il n'y a pas de souci. Parce que quand ces joueurs partent jouer en équipe nationale, toi, il faut que tu tournes derrière.
Non, quand en fait c'est bloqué.
Le championnat on peut s'arrête, pas, on... c'est des ouais. périodes.
C'est une période, c'est bloqué. Ouais.
C'est une période internationale pendant le.
Même lors des stages qu'ils font.
Tout à fait.
Bah, c'est bien ça parce que.
Oui, parce qu'on n'a pas. C'est un sport où dans lequel on n'a pas beaucoup d'effectifs joueurs. Donc si on commence à vouloir jouer, à en enlever deux ou trois qui sont partis. Ça fausse tout le championnat après derrière. On peut pas se permettre.
Et là, Carpentras, tu en as trois. Si tu vas à Neuville, il y en a 4 ou 5. Si tu vas à 3, il y en a 4 ou 5 aussi. Au bout d'un moment, après, ça peut déséquilibrer complètement un championnat. Ça peut fausser un championnat. Il n'y a pas de doublon au motoball. La structure même du championnat fait que tu ne peux pas avoir de doublon. Et c'est plutôt mieux pour le spectacle. Mais ça permet de jouer les matchs en plein été là avec full effectif et
c'est sûr
et de
mais
donner
après,
plaisir
c'est
à tout le monde
pour les internationaux ça fait quand même une saison assez lourde quand même hein. Parce que même s'ils jouent pas c'est vrai que ça peut faire pas mal de matchs
mais après c'est des passionnés donc
si tu leur proposes de se reposer ou de partir jouer en
partir
Russie
jouer.
Ou en Allemagne je pense que tu risques de prendre un coup de casque mais
dans la majorité des cas, c'est un sport qui est amateur. Ils défendent le maillot en priorité, leur club. Enfin, moi, je parle en tout cas au sein de mon club. Mais après, c'est vrai que le Graal pour eux, c'est une sélection en équipe de France. Donc, en règle générale, ça ne les dérange pas, bien au contraire, d'avoir une saison pleine. C'est bon signe pour eux.
Bah, ça, j'imagine, ouais. Et à Carpentras, il y a donc combien d'équipes? Trois équipes?
On avait trois équipes l'année dernière. Là, j'en ai stoppé une, l'équipe intermédiaire, l'équipe élite 2, provisoirement. Parce que
par rapport à un manque d'effectifs.
C'est un manque d'effectifs, mais c'est plus dans la stratégie, dans l'optique qu'on se fait au sein du club de cette équipe élite 2, qui doit être un tremplin pour favoriser la continuité de l'équipe junior, sa progression vers l'équipe élite 1. Mais en favorisant nos jeunes issus de notre formation, il s'avérait que si je continuais cette année l'équipe élite 2, il fallait que j'aille recruter des gens à l'extérieur. Je m'y refuse parce que, premièrement, c'est pas bien, on va dire, parce qu'on va prendre du potentiel chez les autres. Alors c'est vrai qu'il y a des équipes à côté, on n'a qu'à se servir entre guillemets, mais c'est pas trop mon état d'esprit. C'est pas le but de cette équipe élite 2. Et justement, le but de cette équipe élite 2, c'est de pouvoir conserver nos joueurs et de les faire évoluer. Et aujourd'hui, sur cette année 2019, j'avais pas suffisamment de joueurs, je n'en avais d'ailleurs pas du tout, qui montaient de juniors et qui passaient dans la division supérieure. Donc j'ai plutôt fait le choix de stopper de façon à mieux préparer pour peut-être la saison prochaine, voire la saison d'après, lorsqu'on aura vraiment le potentiel qui va arriver des juniors pour recréer cette équipe élite 2.
Après, en même temps, c'est plus valorisant pour un junior, mais en tout cas en tant que sportif, et j'imagine qu'en motoball c'est la même, mais c'est plus valorisant pour un junior de se dire que s'il est très bon junior, il va pouvoir taper à la porte de l'équipe d'élite 1, plutôt que de se dire il va falloir que je me tape une saison d'élite 2, même si c'est un step quand même, et que c'est toujours bon à prendre, il me semble que en tant que sportif, c'est mieux pour une gamine de se dire je vais faire des bons matchs en junior et à la première occasion je vais enquiller en élite 1, plutôt que de se dire je vais enquiller en élite 2 pendant que le mec d'élite 2 enquillera en élite 1. Il me semble que c'est plus motivant pour tes gamins.
Ouais, non, mais ça c'est sûr, c'est clair. Aujourd'hui, les, comme je disais tout à l'heure, les deux équipes principales qui sont vraiment le fondement de notre club, c'est l'équipe junior et l'équipe élite 1. L'équipe intermédiaire, c'est un plus, mais c'est qu'un plus.
Après, ça peut créer la concurrence un petit peu aussi, l'émulation, parce que tu disais ça, Jean-Yves, mais on est d'accord que en élite 2, c'est quand même le meilleur qui passe en équipe première. Ouais. Ça peut créer justement une certaine... Alors que si les mecs, t'es en sous-effectif dans l'équipe 1, ils savent qu'un jour ou l'autre, ils vont jouer, mais ils vont peut-être pas forcément se donner à fond.
Le seul truc, c'est que t'es pas dans un sport où tu peux te permettre d'instaurer cette concurrence-là.
C'est plus compliqué.
Il en va de même au motoball qu'au rugby à 13, mais t'as pas suffisamment d'effectifs, par exemple, pour te dire... je vais me permettre de choisir. J'ai un groupe de 40 mecs, j'ai besoin de 15 mecs pour ce week-end.
Il n'y a pas assez d'effectifs, on est d'accord.
Donc, on est malgré tout dans des sports mineurs. C'est pas faire offense à Christophe de le dire, hein. Mais t'as pas pléthore de choix en fait. Et il se peut même que t'es un mec qui soit un peu à la ramasse pendant 2 ou 3 matchs. Et t'es quand même obligé de lui maintenir ta confiance, parce que si tu le sors de là, il va te manquer. Et peut-être que le mec à la ramasse, il reste meilleur que le mec d'élite 2 qui pourrait suppléer. Ou qu'un junior. Un junior, c'est différent parce qu'ils arrivent, ils sont chauds comme à la braise, c'est petit et tant mieux. Mais des fois, ça arrive dans tous les sports. Quand tu as 40 mecs pour composer une équipe, tu peux choisir. T'es pas bon, tu roules pas bien, là, quand t'as des effectifs de 10-12 joueurs pour te faire la saison, tu fais avec et...
C'est clair, et on le voit au rugby à 13 aussi. Hein.
Exactement. Donc tu fais avec les moyens du bord malheureusement, ça reste des sports mineurs.
T'as combien de joueurs, Christophe?
En règle générale, 8. 8, 9, 8, 9. 10 grands maximum par équipe. En comptant le gardien, hein. Ou les gardiens.
Pour faire la saison, donc tu vois,
tu peux pratiquement pas doubler non plus.
Doubler quasiment, mais
en espérant
après,
que personne
c'est
pas
après là. Si tu veux, la problématique, et c'est aussi une problématique de discipline, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'avec les l'évolution des réglementations de la réglementation fédérale en motoball. Il s'avère que si tu as trop de remplaçants, de toute façon, tu en as toujours un ou deux qui vont jamais jouer, quoi. Donc il y a aussi cet état de fait, c'est qu'à un moment donné, il te faut trouver le juste milieu pour que tu sois pas pénalisé, mais qu'à la fois un maximum de joueurs puissent jouer, quoi. Donc il y a toujours cet état.
Sur un match, tu peux procéder à combien de remplacements?
C'est
limité.
Et sur la feuille de match, t'as combien de joueurs?
À 10 maxi.
10 maxi.
Ouais.
Combien il y en a sur le terrain?
8, non.
4, ouais, 8 joueurs de champ et 2 gardiens.
4 plus 1.
C'est ça. T'as vu un peu ça?
Et ça dépend de quelle fédération, le motoball?
C'est la fédération française de moto.
Très bien.
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 Je crois que c'était un piège pour ça.
Ouais, ça l'était.
Donc, sans transition, je ne relèverai même pas. L'an dernier, donc, troisième, comme je dis, presque deuxième. C'était un relâchement ou finalement, non, vous avez joué votre carte à fond et finalement, Neuville a été plus fort.
On est passé à travers de certains matchs, on va dire.
Il y a des matchs que vous devez faire et que vous faites pas correctement.
Ouais.
Et probablement la décompression d'après-titre et l'objectif assumé de vouloir jouer la coupe. En tout cas, c'est ce que
de
moi
l'extérieur,
j'ai ressenti,
ouais, je pense. Disons qu'on a, enfin, on a vu assez rapidement dans la saison, en ayant perdu un ou deux matchs qui étaient capitaux pour aller chercher le titre. On a tout rebalancé un peu sur, peut-être même inconsciemment, hein, je pense même inconsciemment, on a tout rebalancé sur la coupe, parce qu'on a vu que parallèlement on avait quand même un tirage qui était plutôt clément et agréable. Donc voilà. Bon, si, malgré tout, il a fallu quand même gagner.
Ouais, fait, malgré
gagner
tout,
la,
tu termines pas deuxième du championnat pour en ayant joué décontracté pendant toute la saison et comme il le dit, la finale, après il faut la gagner. Il faut te la taper, quoi.
Mais c'est vrai que pareil, hein, la coupe, c'est ce qui vous manquait vraiment, parce que ça fait, même si c'est la quatrième, n'empêche que dans le club, ça fait très longtemps que la précédente avait été gagnée. Donc, c'était aussi un challenge pour les joueurs.
Bien sûr.
Donc, après prendre les deux de front, c'est quand même compliqué, non? Et le championnat et la coupe.
Non,
où
c'est
les
pas...
deux sont...
Ça s'est déjà vu. C'est assez rare, mais ça s'est déjà vu. Ouais. Donc, après, il faut être très, très bon, performant et surtout linéaire. Voilà,
et par rapport à ton équipe championne de France et l'équipe de l'an dernier, il y a eu beaucoup de changements ou pas du tout?
On n'a pas de changement. En tout cas, on n'a pas d'arrêt de joueurs. Par contre, on a un recrutement d'un ancien joueur du club qui a joué justement à Monteux, qui revient chez nous, qui re-signe chez nous.
Donc ça, c'est pour 2019.
Voilà, ouais.
Mais la transition entre 2017 et 2018, justement, l'an dernier. Est-ce
non,
que l'équipe qui a joué toute la saison dernière était la même que
c'est
celle
même.
Qui était championne de France?
C'est exactement la même. Exactement. Donc, la seule modification, c'est cette année, donc de 2018 à 2019. Ouais.
Donc là, par contre, il y a eu une arrivée.
Une arrivée, ouais. Tout à fait.
Des départs?
Non, pas de départ. Pas de départ, ça, on renforce.
Vu, ils partent pas, les types, ils gagnent. Quand tu gagnes, tu pars pas. Quoi.
Ouais.
Mais bon, après, ils partent pas, ils sont quand même très très sollicités par les clubs alentours, donc effectivement ils sont bien aujourd'hui, ils sont voilà, on est sur une bonne R, on va dire. Maintenant ils sont effectivement très sollicités et à nous, et tant mieux quand il y a ce type de concurrence, parce que ça nous pousse à être encore et toujours meilleur, quoi.
Justement, vous êtes un peu un club un peu à part, parce que il y a beaucoup de d'aller et venu dans les clubs autour, enfin, bon, entre Camaret et Monteux, Valréas, et vous arrivez à garder votre noyau où les mecs partent pas.
Parce qu'ils gagnent.
Même avant, on voit beaucoup les mêmes noms tout le temps qui se baladent, et quand tu regardes les palmarès des joueurs, tu t'aperçois qu'ils ont beaucoup gagné à droite, à gauche, mais après, quand un mec est bon, il gagne à peu près partout.
Je pense qu'il y a l'état d'esprit du club aussi.
Après, c'est l'état d'esprit, et c'est aussi l'image qu'on renvoie depuis des années. C'est que depuis des années, on fait comme ça. Depuis des années, on s'est attelé. Je me suis attelé avec le groupe dirigeant, avec les coachs. Notre politique, elle est toujours la même. On a toujours fait confiance à ce groupe. On est venu ponctuellement lui amener à un moment donné une recrue supplémentaire, mais de façon intelligente pour le faire avancer et continuer à le... Et donc cette image-là, elle perdure et on va continuer comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on fait, le recrutement qu'on fait, on continue à le faire de façon la plus intelligente possible.
Mais en tout cas, la recette fonctionne parce que les joueurs restent. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.
Parlons Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour à enfin une musique dynamique qu'on apprécie, c'est super. Merci Théo en tout cas.
Je vais éviter de refaire le commentaire que j'ai fait en off.
Non,
que
mais
tu n'as pas relevé.
Non, de toute façon, c'est même pas intéressant. Donc si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On est avec Christophe Bartolo, le président du Motobol de Carpentras. Champion de France en 2017, 2018 troisième. La saison va repartir, là ça y est. Prochain match dans une semaine. Même pas, un peu moins.
Premier match samedi, ce samedi qui arrive.
Ce samedi.
Le 6 avril, donc à 19h.
Donc par contre, c'est à l'extérieur.
Non, ah c'est chez nous.
C'est
chez nous. Stade René Pons, ça sert.
Juste derrière les studios, là, tu vois.
Mmh. Ah ouais, c'est juste à côté, en fait.
Mmh. Ouais,
pas et très vous jouez contre
Valréas.
Valréas.
Alors, si tu avais suivi, tu saurais que Valréas vient de remonter en Elite 1 pour la première fois depuis 3 ans. 3-4 ans.
Ouais, ça, oui, 3 ans, je crois.
Et que d'entrée, ben, c'est le match.
Ouais, mais tu sais que si je t'ai invité à l'émission, c'est pour que tu apportes justement cette information que je t'ai donnée avant l'émission.
Alors, d'entrée, c'est une superbe affiche.
Oui.
C'est une bonne façon de lancer la saison. Une bonne façon de lancer le truc parce que y a, les Valréasiens ont fait. On fait parler un peu la poudre là, ils ont recruté un peu en plus du côté de Carpentras et ben, ils remontent avec plein d'ambition et plein de bonne volonté et probablement qu'il ne faudra pas rater.
Ah non, mais c'est sûr, c'est évident. C'est évident.
Il y a une vraie différence entre Valréas qui a préparé le truc depuis une ou deux saisons et Robion qui était monté l'an dernier presque un peu par hasard, on va dire, grâce à Thierry Lafond qui avait fait un boulot monstrueux à Robion. Mais alors que là, du coup, Valréas, on a l'impression qu'ils ont pris le temps de préparer le retour et de se structurer. Ils étaient déjà structurés, mais de préparer le truc.
Ouais, disons que la politique de Valréas, elle a changé depuis quelques années. Effectivement, on a connu Valréas, on le rappellera, enfin, on le rappellera jamais assez, mais c'est un club qui est un des plus titrés de France aujourd'hui. Et ils ont eu cette période dorée où effectivement ils ont engrangé beaucoup beaucoup de titres et puis forcément à un moment donné ils ont eu un petit déficit parce qu'il y a eu un manque de on va dire de confiance donnée dans la jeunesse et dans la formation du club. Et puis depuis 3-4 ans, le nouveau président Thierry Martin a beaucoup travaillé avec ces jeunes, qu'il a formé un peu lui-même à la base en junior. Et aujourd'hui, ben voilà, ces jeunes commencent à produire quelque chose de vraiment positif, de vraiment... On sent vraiment derrière quelque chose d'assez costaud. Et donc oui, effectivement, il va falloir se méfier de cette formation valréasienne qui va venir à Carpentras avec de très bonnes intentions pour jouer ce quart de finale de Coupe de France.
Cette équipe te fait peur ?
Toutes les équipes me font peur, moi. Je, dans le sens où c'est pas de la peur, mais je respecte chaque équipe. Voilà.
C'est vrai qu'ils montent, donc tu les connais pas forcément.
On les connaît pas forcément. On sait qu'ils vont. Moi, je les connais depuis assez longtemps puisque je les ai vus jouer dans les divisions juniors. Je sais qu'ils ont un jeu qui est technique, qui est costaud, on va dire, qui est voilà. Donc, il va falloir faire très attention et puis voilà.
Non, j'écoutais, mais effectivement, juste, je pensais que c'est aussi une spécificité du motoball, c'est qu'on attaque la saison par la Coupe de France. Un petit peu à l'image de ce qui se fait au foot avec les premiers tours de la Coupe Intertoto, les Coupes de la Ligue, là, mais voilà, d'entrée, ça peut vite te pourrir la saison, quoi. Si tu te fais sortir sur la première journée de la Coupe de France, et ben, tu as un de tes deux objectifs de la saison qui est mort, donc il faut être prêt d'entrée, il faut avoir beaucoup bossé pendant l'hiver, et je sais que les équipes de motoball bossent beaucoup le foncier et la moto, parce que au motoball il y a l'aspect pilotage qui est juste très très important, et puis après il y a un énorme travail foncier, psychologique. Et si t'es pas prêt d'entrer, là, Christophe me contredira sûrement pas, mais t'as vite un de tes deux objectifs majeurs de la saison qui pète, quoi. Et tu peux vite te retrouver un peu comme un con, là, au sort du premier match.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre chaque match très au sérieux. Hein.
Et sinon, justement, par rapport au fait de commencer par la Coupe de France, ça a toujours été plus ou moins. Vous, en tant que dirigeant au niveau donc, de la Fédération française, c'est quelque chose qui ne vous dérange pas ?
Non, pas du tout. Non.
Au contraire ?
Ça a toujours été comme ça et ça,
ouais, mais après voilà, mais comme disait Jean-Yves, c'est sûr que tu rates ce premier match. Il suffit que tu tombes contre Neuville, par exemple, c'est un match voilà.
Ouais, mais si tu veux réussir une saison de toute façon,
tu es tout loin,
de n'importe quelle façon que tu la commences, il faut bien la commencer. Donc même en championnat, si tu commences par le premier match, tu commences à perdre des points, c'est pas bon. Ça a moins d'incidence immédiate, mais c'est pas bon non plus parce que voilà. Donc dans tous les cas, il faut être bon d'entrée.
Dès le début. Mais toi, tu parlais, Jean-Yves, de football, mais c'est vrai que le football, des fois, ils font des matchs un petit peu amicaux avant pour se remettre un peu dans le bain.
Chaque club en fait. Nous, on est allé. Alors, on n'a pas fait de match amicaux dans le coin, parce que c'était une volonté plus pour nous. On est parti au mois de mars en Allemagne. On est allé rencontrer l'équipe de Typhoon Morsch, qui est l'équipe championne d'Allemagne en 2018. On a perdu 7-5.
Oh, pas énorme.
Donc, ouais, on a fait une belle prestation contre des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, sur un terrain qu'on ne connaissait pas, sous la pluie.
donc, des conditions idéales.
Des conditions idéales, et on s'est bien régalé, les joueurs se sont bien régalés. Et voilà, on a
juste savoir que l'Allemagne et la Russie notamment, c'est des pays de motoball. C'est religieux, quasi religieux, le motoball dans ces pays. Et quand tu vois par exemple les Russes, il y a 2 ans à Camaré, quand ils arrivent pour jouer contre l'équipe de France, tu as l'impression qu'il y a une planète d'écart entre les Allemands, les Russes et le reste de la troupe.
Après, je suis pas d'accord parce que au dernier championnat d'Europe, la Russie première, c'est vrai, mais l'Allemagne est derrière la France, hein, donc.
La
France est quand même deuxième vice-championne d'Europe. Hein.
En fait, les moyens la façon de gérer elle est différente dans chaque nation. Il faut savoir qu'en Russie, c'est un sport qui est pro, qui est semi-professionnel, qui était professionnel avant, qui est semi-pro maintenant. En Allemagne, c'est très très proche. Il y a des moyens financiers qui sont très importants. C'est vrai que nous, on arrive presque à rivaliser, mais il nous manque cette dimension-là, en fait. Voilà, juste le petit truc qui manque, c'est ça. Mais oui, on a un beau potentiel en France. On a un sélectionneur, Gérald Meillet, qui travaille énormément qui fait un beau travail au niveau de la sélection. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est compétitive. Après, voilà, il y a un léger petit écart avec ces grosses nations.
Bon, en parlant de la Russie, du coup, je pense au matériel, parce que là aussi, c'est super important en motoball, mais on va revenir sur vous un peu plus tard. Mais quand on a vu débarquer il y a 2 ans les Russes avec leur moto qui semblait presque de notre siècle, quoi, on se demande comment les mecs font pour aller aussi vite et aussi bien avec des motos.
Alors, ouais, attention, hein, parce que c'est le bloc russe, le bloc est, effectivement, il y a plusieurs nations de l'ex-URSS. Quand je dis Russie, c'est vraiment la Russie. La Russie, très honnêtement, ils ont des motos qui sont. Il y a un tel moyen financier qui est dégagé que eux, ils ont des motos qui sont vraiment rutilantes et impeccables. Après, on a dans le bloc est, on a la Biélorussie, on a l'Ukraine. Effectivement, eux, ils ont beaucoup plus de difficultés et donc ils ont des motos qui sont beaucoup plus vieilles. Mais après, la Russie en elle-même a vraiment de gros moyens. Ouais.
Justement, comment, parce que ça c'est une partie importante du motoball, mais comment vous le gérez à Carpentras ? Est-ce que régulièrement vous êtes obligé de racheter du nouveau matériel ? Comment tu as organisé ton équipe technique ? Parce que je sais que un mécano au motoball, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu le Père.
On a une chance, enfin une chance, c'est pas une chance parce qu'à mon sens, s'ils sont avec nous, c'est que c'est qu'on travaille pour ça et qu'on y arrive. Mais on a une chance importante, c'est que dans les deux équipes qu'on a, on a deux mécaniciens qui ont chacun leur rôle. Comme dans l'ensemble de mon club, ils sont bénévoles, hein, donc ils viennent pour l'amour du maillot, pour l'amour de la discipline. Et donc, depuis que je suis au club, depuis que j'ai pris des fonctions assez importantes au club, j'ai fait en sorte qu'à la trêve, y ait un gros travail qui soit fait sur la partie mécanique. Donc, ce qui est fait d'année en année, qui nous permet d'avoir un parc mécanique qui est toujours au goût du jour. Et évidemment, chaque année, on commande des motos neuves. Donc, c'est un coût financier important.
Une moto, c'est combien ?
7 425 euros.
Pour ah, c'est précis.
Oui,
c'est cher.
C'est le prix.
Encore le dernier bon de commande.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est.
Et tu renouvelles tout le parc ?
Non. Une moto chaque année. Une moto minimum. Minimum. Une moto chaque année.
Parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Et sur un match, qu'est-ce qui peut faire la différence ? La mécanique peut faire la différence ?
Bien sûr.
Oui, carrément.
Bien sûr, carrément. Carrément.
Imagine que ta moto ne soit pas entretenue comme il faut. Mais je ne sais pas si tu as déjà assisté à un match de motoball, mais ça va très très vite. Mmh. Il suffit que ta moto pétarade un peu et tu es un peu à la rue sur une action, et ben ça fait but à la fin. Y a des chocs terribles au motoball, et le temps que ton mécano répare la moto, le pare-ballon, machin, et ben ça, ton joueur ne va pas sortir, il va utiliser la moto d'un autre si elle est un peu moins bonne. Enfin, c'est une partie essentielle.
Autoball, tu peux avoir le meilleur joueur d'Europe sur une moto, mais si la moto ne marche pas...
Ah, on a un problème de son, Théo ? On n'a plus de retour ? Non, c'est bon ?
Non, c'est bon.
Ah d'accord, c'est moi qui ai un problème de retour.
Ouais, je disais, tu peux avoir le meilleur joueur d'Europe dans ton équipe, mais si sa moto ne fonctionne pas, c'est comme si tu n'avais personne. Hein. Donc, voilà, parce qu'après, chaque joueur... aime avoir la moto à telle hauteur, etc. Ses réglages à lui. Donc tu peux le faire jouer avec une autre moto, mais un bon joueur reste un bon joueur, de toute façon.
Et donc il garde sa moto ?
En règle générale, ben oui, bien sûr. Il a sa moto à lui.
Tes joueurs qui jouent justement à l'international,
ils partent avec leur moto.
Ils partent avec leur moto. Mm.
Et là, les fédés se chargent de commander, dis-moi si je me trompe, mais les fédés se chargent de commander des plastiques pour mettre les motos aux couleurs de
l'équipe de France.
De l'équipe de France ou du pays. Mm. Mais les mecs partent avec leur bécane parce qu'ils roulent toute l'année avec, parce que il faut avoir vu ces mecs-là avec leur moto, mais ça fait un seul, quoi. Mm. C'est comme un cavalier avec son cheval. Au bout d'un moment, tu sais plus où est la limite entre ton cul et la moto, entre tes jambes et la moto. C'est vraiment... les mecs font des trucs avec leur moto, c'est des trucs de dingue, et sur la clapissette et encore plus même que sur le goudron, mais on voit vraiment des mecs qui font qu'un avec leur machine.
Et là où c'est impressionnant, c'est le mécanicien, parce qu'il doit connaître vraiment le réglage pratiquement de tout le monde, être vraiment très précis au niveau justement de la mécanique. Et puis le temps qui est imparti justement durant le match, s'il y a un petit problème mécanique, il faut la réactivité, quoi.
Bah après, si tu veux, tout ça, c'est comme tout. Hein. C'est comme je dis toujours, si tu veux une grande équipe, il faut des grands joueurs, il faut un très bon mécano, il faut un très grand gardien, un très bon gardien, il faut un bon coach. Enfin voilà, il faut être bon, il faut tout avoir. Voilà, parce que effectivement, en face de toi, tu as des grosses écuries et eux, ils savent.
Mais effectivement, souvent les mécanos travaillent dans des conditions un peu spartiates, en tout cas. Pas spartiate, mais ils travaillent dans l'urgence avec ils arrivent à te remettre à te redresser un cadre avec un tournevis et un marteau c'est souvent aussi le spectacle, il est souvent presque dans le stand autant que sur le terrain, parce que quand on voit ces mecs
il y a déjà beaucoup de gens qui restent proches du stand mécanique pour voir les mécanos à l'œuvre et comment ils travaillent,
bien sûr,
etc.
Bien sûr, ils se régalent. On les voit, quand tu vas voir des gros matchs aussi, tu sens vraiment qu'il y a une énorme pression même sur les mécanos.
Ah oui, sur les épaules des mécanos, bien sûr, mais énorme. Moi, j'ai vu des matchs où le match a reposé sur... Parce que le match était très, très serré et le match a reposé sur leur rapidité à changer une roue. Ils ont changé deux roues En 5 minutes, ça allait très très vite et ils se sont très bien coordonnés et ça a fait que, ben, qu'on n'a pas perdu le fil et qu'on est allé faire un résultat. C'est plein de petits détails là quand on veut aller chercher des titres.
C'est les petits détails qui font la différence.
C'est ce genre de petits détails qui va faire la différence.
Alors justement, donc 2019, ça y est, ça commence. On commence par la Coupe de France. C'est quoi l'objectif cette année?
Se faire lyncher au premier tour de la Coupe de France, c'est finir dernier.
Ça va finir dernier. Le maintien.
C'est quoi? C'est Coupe de France et championnat ou est-ce que vous
racler
avez...
tout ce qui pourra racler, surtout, oui.
Ouais, après, moi je suis de. Comment dire? J'aime pas parler des choses. Voilà, je connais le potentiel. Je suis personnellement assez confiant pour cette saison. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri de blessures, on n'a pas à l'abri de plein de petites choses qui peuvent arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au vu de ce que j'ai pu observer de mon équipe en Allemagne, je peux dire à tous les auditeurs que s'ils viennent nous voir régulièrement, ne serait-ce que déjà à domicile sur notre stade René Pons, je peux leur garantir que cette année, ils vont se régaler.
Alors, en plus, l'autre truc qui fait qu'on se régale au motoball, c'est que c'est un sport d'été. C'est-à-dire que là, la saison commence maintenant, il fait beau, c'est agréable. Tu vas au motoball, tu passes des soirées sympas, avec une bonne ambiance, un peu comme à la maison, tu manges une grillade au bord du terrain, tu bois une bière. Et c'est vraiment une ambiance différente, et c'est ce qui fait la différence avec plein d'autres sports, par exemple. C'est que le motoball, c'est un sport d'été, un peu à l'image de la Super League en rugby à 13. C'est que tu vas au motoball, tu sais que tu vas pas te peler, en fait, tu vois. C'est toujours un peu emmerdant. Non, mais c'est toujours emmerdant d'aller voir du rugby. Et Dieu sait, moi, j'aime le rugby. Mais des fois, il y a des soirs où tu te dis, ben, je vais pas au match parce que je vais me peler. Alors qu'au motoball, eh ben, c'est l'été. Alors, sauf si tu en pègues un jour de Mistral ou un jour
de... Ça arrive toujours.
Mais en tout cas, ben, tu passes des bons moments et ça vaut la peine.
On parlait justement des objectifs. Bon, sport d'été, c'est vrai que c'est important, mais les objectifs, c'est encore plus important. Et on parlait tout à l'heure justement du doublé. Et je regardais un petit peu au niveau des doublés. Et j'ai deux équipes hein, sur les 6 dernières années justement qui ont réussi ce doublé. Bah, on a Neuville hein, qui a en 2013 a fait le championnat et la coupe. Et l'année suivante, c'est Valréas qui a réussi justement ce doublé. Donc c'est largement faisable. Et pour toi, tu as une équipe qui est capable de faire les deux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle. Malgré que tu es quand même suspendu l'équipe d'élite 2.
Ah oui, ça n'a rien. Enfin, ça n'a pas à voir directement avec ça. Ça n'a pas de lien direct. Capable, oui. Très sincèrement. Capable, oui. Après dire qu'on va le faire, et non, je ne suis pas devin et je n'ai pas ce tempérament-là. Donc, par contre, capable, oui. Capable,
tu sais où
oui.
C'est de ville, Lionel?
Non.
Ah, moi oui.
T'es où?
C'est dans le Poitou.
Au-dessus du Futuroscope. Hein.
Neuville, vous allez les aborder comment cette année?
Très rapidement, puisque c'est les premiers qu'on prend en championnat.
Et c'est pour ça?
Et on va chez eux le 13 avril. Donc, juste après avoir reçu Valréas, on monte à Neuville.
Vous allez aborder ce match de quelle manière?
Religieusement et très professionnellement. Voilà.
C'est un match important?
Très important.
J'allais dire capital.
Importantissime.
Ouais, j'allais dire capital. Ouais.
Si tu le gagnes, celui-là, tu mets un adversaire direct un peu déjà derrière toi. D'où l'intérêt aussi de mettre ce qu'il faut contre Valréas, parce que dans l'hypothèse où tu viendrais à perdre contre Valréas, et c'est, je le souhaite pas, mais si tu perds contre Valréas et t'es pas sûr de faire un bon coup à Neuville, ta saison, elle est vite mal foutue et ça peut vite puer, quoi. Donc, t'as deux énormes trucs à faire d'entrée et t'as intérêt de les faire comme il faut, quoi.
Parce que les grosses équipes, justement, on va dire, qui vont compter justement pour le championnat, c'est ceux qui ont terminé devant vous. Donc, Neuville et Troyes.
Pas que. On a des équipes qui sont toujours dangereuses. Hein. On parlait tout à l'heure de Monteux. Moi, je me méfie de toutes les équipes. Mais après, il y a des équipes. On sait que Monteux est toujours toujours performant. Voilà, et on a toujours une rivalité sportive.
Elle est redevenue sportive, elle était un peu exacerbée ces derniers temps.
C'est ça. Et puis, moi, j'oublie pas l'équipe de Camaré aussi, qui a un gros potentiel. Et donc, Thierry Lafond qui est allé l'entraîner cette année. Donc voilà, des équipes qu'il va falloir respecter, tout
Thierry
simplement.
Lafond, maître psychologue et maître tacticien. On le recevra, Thierry, parce que pour le coup, c'est il te plaira.
Bon, d'accord. Mais en tout cas, le prochain, donc samedi, quelle heure?
19h, en stade René-Pons.
René-Pons, donc premier match justement de Carpentras pour cette saison 2019, en espérant bien entendu te recevoir avec le titre et la coupe, ça serait bien. Bah, et puis il y a aussi le trophée des champions qui c'est aussi une part pour la soie, parce que c'est quand même important ce petit jeu.
Oui, bah après c'est toujours la cerise qui vient sur le gâteau, ça, hein, le trophée des champions. Bon, après faut passer d'abord par un titre au préalable, quoi.
C'est ça. Voilà. Donc tu peux jouer le trophée des champions que si t'as été champion de quelque chose. Général, quand tu joues ce truc là c'est que ta saison n'a pas été pourrie.
C'est déjà, voilà, c'est déjà que tu as réussi quelque chose.
En général, il fait froid pour le trophée des champions, ouais, parce que c'est un peu plus froid, fin de saison. Mais en général, c'est une belle fête. Moi, j'avais été au trophée des champions à Camaré il y a 2 ans. Et c'est une belle fête parce que c'est des équipes qui ont gagné déjà un truc. Donc, même si c'est de loin, ça a l'air d'être un peu le match cacahuète. Personne ne veut le perdre, quoi. Quand tu as été champion de France ou vainqueur de la coupe, celui-là tu veux pas le lâcher.
Bon, en tout cas, clairement, le prochain match c'est samedi. On te souhaite le meilleur justement pour samedi, pour la saison entière, hein, parce que c'est reparti. Et puis on aura l'occasion de se tenir informé. En tout cas, merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous encore une fois de m'avoir reçu.
Merci à
toute l'équipe.
Merci mon petit Jean-Yves.
Avec plaisir.
Merci mon petit Théo.
De rien.
Fayot.
Attends, il est important, c'est... Ça, en lui, on pourrait même pas parler.
Que feuille.
Et voilà. Et nous, on se quitte. Hein, certains partent en vacances. Donc, bonnes vacances. Hein, parce que ce sont les vacances scolaires la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve bientôt. Bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir.